Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, consultante en innovation et développement d'activités pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Et dans cet épisode, j'accueille Nina Ramen. Avec Nina, on a parlé de comment créer du contenu impactant, mais surtout qui convertisse, de comment développer une marque personnelle quand on est un professionnel du droit, de comment rédiger une page de vente qui convertisse, et puis Nina nous a aussi donné ses conseils et les erreurs à ne pas commettre si on se lance dans la rédaction d'une newsletter, qui est un super outil aussi de conversion. Bref, plein de super conseils directement actionnables, alors bonne écoute!
Bonjour Nina, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je suis très heureuse de te recevoir dans mon podcast.
Salut Laetitia, un grand merci à toi pour l'invitation surtout.
Nina, donc tu es la reine des copywriters, alors le copywriting c'est quoi? Bon, tu nous l'expliqueras plus en détail, mais en gros c'est l'écriture d'un texte à des fins marketing ou commerciales, bref, écrire un texte pour vendre. Et ça tombe bien parce que les mots, tu les manies avec brio et c'est d'ailleurs ça qui fait de toi l'une des principales influenceuses françaises sur LinkedIn. Mais ce n'est pas tout, tu as aussi une super newsletter qui cartonne, tu formes des entrepreneurs au copywriting et puis tu as créé Ramène ta fraise, une communauté gratuite qui aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn grâce à des astuces, à de l'entraide et puis à la force du collectif. Et ça fait un petit moment que je te lis et que je te suis avec beaucoup d'intérêt et je me suis dit que tu aurais certainement plein de super conseils à donner aux professionnels du droit et notamment aux avocats. On n'a pas été formés à ça et je pense que tu auras plein de conseils à donner pour créer du contenu impactant et qui puisse convertir. Bref, je suis super heureuse que tu aies accepté cette interview, donc merci beaucoup. Est-ce que déjà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a conduit à t'intéresser à l'écriture, au copywriting et puis à la communication de façon plus générale?
Alors, moi, il n'y a pas grand-chose qui me prédestinait à faire du copywriting, à faire de l'écriture. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, tout simplement, j'étais dyslexique, comme beaucoup de gens. Donc, tu vois, à la base, les mots, c'était pas trop mon truc. J'ai fait des études scientifiques, d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que dans mon premier job, qui était le recrutement, je devais beaucoup écrire, et notamment pour approcher les candidats, fallait que je leur envoie un message pour initier un premier contact, tu vois. Et je me suis rendu compte, quand j'envoyais ce message, qu'en fonction du message que j'envoyais, bah, j'avais plus ou moins de réponses, j'avais plus ou moins de oui. Le but, c'était de les convaincre, évidemment, bah, d'avoir un appel téléphonique pour leur présenter un poste pour lequel j'avais été mandatée. Et c'est là, en fait, je me suis rendu compte que la teneur du message pouvait vachement impacter les résultats et le business. Parce que, bah, évidemment, plus j'avais de bons candidats, plus je pouvais les placer, et plus, en fait, ça augmentait le chiffre d'affaires que je ramenais.
Ouais.
Et donc, je me suis dit, oh, c'est marrant. Et là, en fait, j'avais découvert le copywriting sans vraiment le savoir. Et c'est un peu comme ça que je suis tombée dedans. Alors, oui, effectivement, t'as très bien défini le copywriting. Le copywriting avec un W et non pas avec un R, ça n'a rien à voir.
Oui.
Copywriting avec un W, c'est l'art de convaincre les gens avec des mots, l'art de vendre au sens large du terme. Ça peut être, bah, comme je te dis là, sur des messages individuels, mais sur des newsletters, sur des posts LinkedIn, ça peut être aussi sur des pages de vente directement. En gros, le but, c'est de faire cliquer les gens sur le bouton acheter, ou en tout cas sur des boutons, et à fortiori, forcément sur le bouton acheter. Donc voilà, donc tout ça pour te dire que l'avantage du copywriting, c'est que pour être un bon copywriter, t'as pas forcément besoin d'être Proust. T'as surtout besoin d'être un bon vendeur, d'être quelqu'un qui amène les bons arguments au bon moment.
Et comment tu t'es formé à ça? Comment t'as amélioré justement ta façon d'écrire dans cet objectif-là?
Alors, on en revient à l'histoire du recrutement, où j'étais recruteuse. Donc déjà là, j'ai découvert ce qu'était le copywriting. Et juste après ça, en fait, je suis allée dans une boîte qui s'appelle l'école du recrutement, donc qui forme des recruteurs. Donc je travaillais là-bas, moi. Et en fait, cette école dispense des formations. Et elle a notamment un blog, et en fait, c'était en cherchant sur Internet que je suis tombée sur le mot copywriting. Donc, j'étais pas du tout chez eux à la base, je cherchais juste sur Internet comment améliorer en fait les messages d'approche. Et c'est en tombant sur l'article de l'école du recrutement, qui parlait de copywriting, que j'ai découvert la discipline. Après, ils ont écrit tellement de super articles que je me suis dit que j'allais bosser pour eux, donc je suis passée bosser avec eux. Mais à la base, c'est comme ça que j'ai découvert le mot copywriting. Et comment est-ce que j'ai appris? J'ai beaucoup lu. J'ai suivi pas mal de formations. C'est vraiment deux éléments qui ont été très importants. Et ensuite, j'ai pratiqué. C'est-à-dire que, tu vois, je publie sur LinkedIn depuis 4 ans, pratiquement tous les jours.
Ouais, c'est une belle fréquence.
Et j'écris au minimum 2 heures par jour, 365 jours par an, en fait. Donc, quand tu fais ça, en fait, au final, bah, tu ne peux que t'améliorer. En fait, il y a une grosse partie qui passe par de la pratique.
Ouais. Et au niveau des livres, est-ce qu'il y en aurait un que tu recommanderais en particulier à nos auditeurs de lire s'ils s'intéressent à ce sujet?
Ouais, il y a The Boron, B-O-R-O-N, Letters, qui a un livre d'un copywriter qui est en prison et justement qui écrit à son fils depuis la prison pour lui transmettre le copywriting, sa compétence de copywriter. Et c'est assez intéressant parce que la manière dont c'est écrit, c'est déjà assez épistolaire. Et puis en plus, ben, il donne un peu ses secrets. Et puis il y a ce truc-là de se dire que ben, le mec est en prison et on se demande vraiment pourquoi. Et c'est une histoire, enfin c'est vrai quoi.
Ah bah trop cool, mais écoute, je le connais pas, donc je le dirai aussi. Merci pour la reco. Et alors, si je me mets à la place d'un avocat ou d'un professionnel du droit, en quoi ça peut être utile? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Comment aussi s'y prendre? Quels seraient tes conseils?
Bah, en fait, peu importe la discipline que tu fais, mais notamment quand t'es avocat, tu vends de la prestation de service.
Oui.
À partir du moment où tu vends, t'as besoin en fait de clients. Et à partir du moment où t'as besoin de clients, bah, le copywriting peut te servir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, sur le marché des avocats, bah, y a énormément de monde. Chacun a sa spécialité, mais il y a quand même beaucoup de monde, il y a beaucoup de concurrence. Surtout que, bah, en fait, vous êtes aussi concurrencé probablement par d'autres métiers.
Tout à fait.
Comme, je sais pas, les experts comptables, etc. Donc, t'es dans un univers, un écosystème où, au-delà de ton savoir-faire, t'as besoin du faire savoir. T'as besoin de faire savoir que toi, t'es Laetitia, que t'existes, que tu es spécialisée dans tel type de dossier. Et t'as besoin de te faire connaître auprès de clients potentiels, ou en tout cas de prospects. Et donc, le copywriting, l'écriture de vente, elle va te permettre d'aller toucher des prospects. Notamment, si t'es spécialisé en droit du travail, côté entreprise, bah, tes clients, ça va être qui? Ça va être, je sais pas, Danone, L'Oréal, Nestlé, ça peut être la PME du coin, ou ça peut être Nina qui est seule dans sa boîte. Et ben, le copywriting va t'aider aussi à aller prospecter ces personnes-là en leur envoyant le bon email. C'est-à-dire de pas envoyer un email chiant, que la personne, elle te réponde, elle ait envie de bosser avec toi, si elle a un besoin. Autre manière dont tu peux te servir du copywriting dans ce cas-là, ça peut être notamment de publier sur LinkedIn. Moi, je connais plein d'avocats qui publient sur LinkedIn et c'est un moyen en fait pour eux bah, de se faire connaître. Et troisièmement, tu peux aussi faire ce qu'on appelle une newsletter ou donner du contenu gratuit. Bah, c'est un excellent moyen de te faire connaître du grand public, enfin ou de ta cible, et derrière bah, de leur proposer et de leur vendre des prestations.
Et une fois que tu sais ce que tu vends et à qui tu souhaites les vendre, comment tu fais pour entrer dans la tête de tes clients pour finalement arriver à leur proposer un contenu, un style aussi, qui soit parfaitement adapté à leurs besoins, à leurs attentes?
Alors, je vais donner un exemple qui est une de mes clientes qui est dans ma formation. Alors, j'ai une cliente et un client. Et en fait, ils sont tous les deux avocats. Et ils sont avocats plutôt dans la partie B2C. C'est-à-dire qu'en fait, ils aident les salariés notamment qui sont dans des situations compliquées avec leur entreprise ou voilà, à entamer des procédures. Donc, ça peut être de la négociation, mais ça peut être aussi. Alors, désolée si j'utilise pas les bons termes parce que je suis pas avocate, mais en tout cas, ils vont t'accompagner. Toi, par exemple, voilà, tu fais un, je sais pas, une rupture conventionnelle ou pas de rupture conventionnelle ou on te licencie. Voilà, ça se passe.
Défendre leurs droits.
Comment se faire pour défendre leurs droits? Bon, les deux, ils font ça. Et là, typiquement, bah, l'intérêt pour eux, ça va être plutôt d'aller trouver des clients qui ont ces problèmes-là et qui feraient appel à des avocats. Et donc, comment faire? Ben, un des moyens, par exemple, ça va être de publier du contenu sur LinkedIn. LinkedIn est rempli de personnes qui veulent changer de job et donc, pour qui, potentiellement, ça se passe pas bien dans leur job actuel.
Oui.
Donc, qui pourraient être des clients potentiels. Ça, c'est la première chose, c'est où les trouver. Après, quoi leur dire? Il faudrait aller faire des interviews, poser des questions, en fait, à tes clients. Essayer de comprendre qu'est-ce qui leur fait peur, qu'est-ce qui leur fait mal. Je m'explique, tu vas venir me voir. Et tu vas me dire, bon, bah, voilà, Nina, moi, je peux t'aider à gérer n'importe quel conflit avec ton employeur sans avoir à te mettre en première ligne avec eux, sans aller jusqu'au conflit. Voilà, il faut que tu arrives à trouver, en fait, ce qui fait peur ou ce qui peut motiver ta cible. Qu'est-ce que tu peux proposer? Tu proposes pas du service d'avocat, tu proposes, en fait, quelque chose qui va au-delà.
Une solution.
Une solution, exactement. À un problème, et c'est ça qu'il faut que tu découvres auprès de ta cible, en fait.
Oui, c'est vraiment identifier quels sont leurs problèmes principaux et ensuite de leur proposer finalement une solution pour régler ces problèmes-là. Et après, bah, c'est le style aussi de chacun, etc. Mais, et puis, il y a certainement aussi des tips. Tu parlais de LinkedIn. Toi, tu es très active sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a certaines règles qui s'appliquent un peu à tous les posts qui fonctionnent, enfin, qui ont un contenu impactant, qui génèrent des interactions avec ta cible de clientèle ou, enfin, ton audience, peu importe, mais...
Alors, j'ai une formation de 3 heures sur LinkedIn, donc je vais peut-être pas
tout dire. Oui, non, mais quelques conseils, en tout cas.
En tout cas, l'idée de LinkedIn, c'est que t'es pas là pour vendre. T'es là pour te faire connaître. T'es là pour créer une audience. Si t'arrives et tu dis, salut, viens bosser avec moi. Bah, en fait, c'est comme quelqu'un qui vient dans la rue que tu connais pas et qui te dit, salut, tu veux mon produit? Bah, non, t'as pas envie. Hein. Le but, c'est d'arriver à te faire connaître d'abord de ton audience et à rentrer dans le top of mind, dans la tête de ton audience. Top of mind, c'est quoi? C'est quand je te dis soda, bah, tu penses à Coca, par exemple. Ça, c'est le top of mind. Bah, toi, tu veux que quand on est avocat, bah, on pense à toi directement. C'est ça qu'on cherche sur LinkedIn. Et donc, pour faire ça, un excellent moyen de faire, c'est d'apporter du contenu à ta cible. Premièrement, il faut poster régulièrement. Il faut poster minimum 3 fois par semaine. Si tu postes 1 fois par mois, ça sert à rien. Les gens vont t'oublier. Pour rentrer dans le quotidien des gens, c'est un peu comme le pote qui va t'écrire des textos. Tu vas être beaucoup plus proche de la personne qui t'envoie des messages 3 fois par semaine que quelqu'un qui t'écrit 1 fois par an. Vraiment, faut essayer d'avoir cette régularité. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce que je disais, c'est donner du contenu, apporter de la valeur. Typiquement, ce que tu pourrais apporter comme valeur, ce serait la plupart des, j'essaie de t'écrire un début de poste, mais la plupart des salariés pensent que le licenciement est une procédure irrévocable. Voilà, par exemple. Tu vois, je te dis n'importe quoi. Or, c'est faux, car blablabla, blablabla, blablabla. Bon, bah voilà. Là, tu vois, toutes les personnes qui sont dans une procédure de licenciement, bah, probablement qu'elles vont être interpellées par ce poste. Et si elles sont dans la difficulté, bon, bah voilà, elles vont te contacter. Mais en tout cas, tu vas apporter de la valeur à cette personne. Elle va dire, ah, mais Laetitia, c'est trop intéressant ce qu'elle dit. Vas-y, je vais la suivre. Et comme ça, bah, je vais en savoir plus, etc. Et toi, tu vas, bah, plus te positionner comme l'ami ou la personne qui va te conseiller au quotidien, bah, ta cible pour qu'au final, le jour où elle a besoin de toi, elle prenne son téléphone.
Donc, une fois que tu fais ça, est-ce qu'il y a d'autres petits conseils, petites astuces que tu aurais à donner?
Ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne accroche. Il faut savoir que les gens consomment LinkedIn en scrollant. Donc, ils vont faire défiler la page. Et toi, ton objectif, c'est de faire en sorte qu'ils arrêtent leur attention sur ton poste. Et pour ça, t'as pas 36 000 opportunités de le faire. Il faut vraiment que tu le fasses dès le début. Donc, les 2 premières lignes, les 2-3 premières lignes sont très importantes.
Ouais, c'est là qu'il faut que tu captes l'attention, sinon les gens risquent de descendre et de suivre, enfin de scroller et effectivement de passer à un autre poste que le tien. Et même si le reste de ton poste peut être très intéressant, bah ils le liront pas, quoi.
Exactement. Et de la même manière, ça sert à rien de dire bonjour à tous, cher réseau. Tout ça, on oublie en fait. Faut vraiment se dire que les gens, ils ont pas le temps sur LinkedIn. Il y a toi, mais il y a 36 000 autres personnes en fait qui écrivent du contenu et du bon contenu. Donc faut que tu délivres la valeur tout de suite. Qu'est-ce que t'as à dire? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui va toucher ta cible?
Et comment tu vérifies que finalement ce que tu proposes comme contenu est en adéquation avec ce qu'attend ta cible? Parce que enfin, parfois t'es contacté par des gens et donc tu vois que ça intéresse, t'as des retours et tout, mais si t'as pas forcément de retour, comment tu sais quoi améliorer? Est-ce que ça correspond finalement à ce qu'ils attendent ou pas?
Alors, t'as plusieurs options, mais la première déjà c'est de tester et d'itérer. Quand tu publies 15 posts par semaine, à un moment tu finis par comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Donc déjà, la régularité, c'est très important pour avoir une bonne courbe d'apprentissage. Ensuite, moi, je conseille toujours d'avoir une formation que tu suis parce que, en fait, ça te permet de donner les bonnes bases et les bonnes techniques. Et la troisième chose, ça va être d'aller demander à ta cible. Imagine que toi, tu cibles les DRH des grands groupes. Bah, tu vas voir Martine, qui est DRH chez L'Oréal, et t'essayes d'engager une conversation avec elle pour savoir quels sont ses problèmes. Typiquement, Martine, je sais pas, son problème, c'est que elle doit licencier 100 personnes en 2 ans. Ok. Bah Martine, quel type de contenu on peut lui apporter pour l'aider dans son quotidien?
Donc c'est vraiment toujours à la fois tester, itérer, mais renforcer aussi ça en interrogeant sa cible de clientèle de façon régulière.
Ouais, vraiment. En fait, il y a 3 piliers. Ils sont tous les 3 indispensables. Le premier, ça va être à quel point tu vas parler à ta cible. Donc ça veut dire que tu vas connaître ta cible. Donc plus tu vas lui parler, plus tu vas comprendre les questions qu'elle se pose et plus tu vas délivrer du bon contenu et plus tu vas savoir lui vendre. Le deuxième pilier, ça va être vraiment la régularité et la fréquence. À quel point bah, tu vas le faire régulièrement et ta courbe de progression va s'accélérer forcément. Et la troisième chose, c'est vraiment la technique, respecter l'algorithme, etc., qui va être quelque chose que tu vas plus avoir et découvrir en te formant toi personnellement.
Oui, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de cet algorithme qui évolue d'ailleurs au fil du temps, et je sais que ça peut en effrayer certains en disant bah, en fait ça change tout le temps, donc du coup est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui ça sera toujours valable demain, etc. Bon, ça j'imagine que ça va aussi avec le fait de tester, et tu te rends assez vite compte si à un moment il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, et le fait de publier régulièrement te permet aussi d'identifier ça. Mais après, je sais qu'il y a un autre point qui ressort souvent des conversations que je peux avoir avec des professionnels du droit, mais pas uniquement, c'est le syndrome de la page blanche. J'ai vraiment envie de communiquer, mais oh là là, en plus, si je dois le faire 3 fois par semaine, j'ai pas d'idée, ou alors je sais pas comment la décliner. Est-ce que t'as des conseils, justement, pour lutter contre ça et arriver à avoir des idées de contenu un peu d'avance pour simplifier et être plus serein aussi par rapport à ces publications régulières?
Alors, je vais me répéter, hein, mais premièrement, aller voir sa cible, demander à ta cible principale, ton client idéal. Tu peux l'appeler, lui dire, écoute, est-ce qu'on peut prendre 20 minutes au téléphone? J'ai rien à te vendre, je veux juste te poser une question. Donc là, tu le prends au téléphone et tu lui dis, ok, est-ce que tu peux me poser toutes les questions qui te viennent en tête dans le domaine du droit? Et là, en fait, ça te fait des idées de contenu toutes faites. Exemple, mon employeur a-t-il de droit de X? Comment sortir de Y? Enfin, je suis nul en droit, donc je connais pas du tout d'exemple.
Oui, non, mais on comprend bien l'idée.
Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, aller regarder, probablement que tu consommes du contenu, et c'est en consommant du bon contenu qu'on crée du bon contenu. Et donc, quand tu lis des articles, ou quand tu écoutes des podcasts, comme là, par exemple, pour nos auditeurs, prends des notes. Prends des notes de ce que t'entends, et simplement, si toi, ça t'intéresse, ça peut intéresser d'autres gens, comme toi. Et donc, quand t'entends quelque chose qui te paraît pertinent pour ta cible, tu le notes tout de suite dans une application, peu importe, tu utilises les notes de ton téléphone, par exemple. Là, tu le prends en note et derrière, ça va te faire des idées de poste. En tout cas, ton objectif, c'est toujours d'avoir, ça c'est vraiment une petite astuce que je donne, c'est d'avoir toujours un endroit où tu vas noter tes idées. Parce que les idées, elles viennent tout le temps, toute la journée. Elles viennent sous la douche, elles viennent quand t'es en train de marcher, elles viennent jamais au bon moment des idées de poste. Et donc, l'objectif, la différence entre ceux qui ont beaucoup d'idées et ceux qui en ont pas, c'est simplement que ceux qui en ont beaucoup les notent. Enfin, en fait, c'est pas le nombre d'idées que t'as par jour. C'est vraiment à quel point tu les notes, et noter ces idées, c'est super important parce que derrière, t'as juste besoin d'ouvrir, entre guillemets, ton application et de regarder les idées et de te mettre à écrire. T'as du stuff.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment toujours la même démarche que tu décrivais déjà avant, c'est toujours revenir aux besoins de ta cible, donc de les interroger, de tout noter, et aussi de t'inspirer d'autres contenus, d'autres choses que t'as entendues, et puis de toujours avoir quelque chose pour noter tes idées au fil de la journée pour pas les perdre. Ça, c'est vrai que si on les note pas tout de suite, on se dit qu'on va s'en souvenir, et en fait, non, elle est partie.
Exactement. C'est un peu comme les rêves, en fait, les idées.
C'est clair.
Et en fait, là-dedans, ce que je veux dire, c'est surtout de décorréler les étapes de la création de contenu. La première étape de la création de contenu, c'est ce que j'appelle l'idéation, c'est-à-dire comment avoir des idées, c'est ce que je viens de te décrire là. Oui. La deuxième étape, ça va être vraiment de la structuration. Une fois que tu as des idées, comment tu les structures dans ton poste? En un, je veux dire ça, en deux, je veux dire ça, et en trois, je veux dire ça. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, c'est l'écriture. Donc là, c'est vraiment utiliser des mots, etc. Et ensuite, la relecture. Donc tu vois que l'écriture, en fait, si tu commences par faire de l'écriture et que t'as pas eu tes idées et que t'as pas structuré ton poste, en fait, c'est comme si t'essayais de faire la fin du marathon alors que t'es même pas parti de la ligne de départ, quoi. Donc, tu vas beaucoup galérer. Ou sinon, c'est comme essayer de courir un marathon en claquette, tu vois. C'est pas facile. Donc, vraiment, faut vraiment essayer d'avoir des étapes, décorréler ces étapes. Tu vois, faut pas essayer de courir et de nager en même temps. D'abord, t'as tes idées. Et d'ailleurs, ça peut ne pas être au même moment. Tes idées, ensuite, tu structures et le lendemain, t'écris. Ou le matin, tu fais les idées, tu vois, c'est plutôt au quotidien, tout le temps. La structuration, ça peut, je sais pas, le lundi, et le mercredi, t'écris, et puis le vendredi, tu programmes tes posts.
Et est-ce que t'as des conseils sur comment bien structurer son contenu?
Je te donnerai comme ça, tu pourras le mettre en description. Mais en gros, j'ai des articles qui expliquent des structures qui sont déjà toutes faites. C'est aussi sur mon site ninaraven.com. Et le fait d'avoir des structures toutes faites, ça te permet, toi, de mettre ton contenu, et après d'en avoir de nouvelles, d'avoir de nouvelles idées, etc. Donc c'est bien quand on débute de partir de quelque chose qui est déjà fait, parce que t'as pas à te prendre la tête, et ensuite, finalement, tu vas pouvoir t'adapter et faire évoluer. Donc moi, je conseille toujours de commencer par des trucs tout faits, c'est beaucoup plus facile. C'est sur mon site internet, ça s'appelle 45 ressources gratuites, et une fois que t'es dedans, en fait, tu vas dans la partie devenir mémorable sur LinkedIn, et là, tu regardes, il y a des articles, en fait, qui sont vraiment là pour t'aider à créer du contenu, et notamment un qui s'appelle 6 structures d'articles ou de posts à voler. Et tu vois, si je prends ça, par exemple, il y a une structure, c'est la structure histoire personnelle, mais il y a une autre structure qui s'appelle les nouvelles tendances, une autre structure qui s'appelle l'histoire d'une réussite, voilà. Et ça peut t'aider.
Ouais, il y a plein d'exemples. Ça peut permettre, si on débute ou qu'on sait pas forcément comment s'y prendre, d'avoir un repère et ensuite de pouvoir un peu manier ça à sa sauce et d'y mettre son style, mais je pense que ça aide bien au départ, si tu sais pas trop par où commencer ou comment t'y prendre, ça rassure, je pense, aussi. En tout cas, top, je mettrai le lien pour que nos auditeurs puissent accéder à ces ressources-là. Et puis, il y en a plein d'autres qui sont hyper intéressantes, donc ça permettra à tout le monde de découvrir tout ça. Une autre question, on parle souvent de la longueur des posts. Est-ce que ça a finalement une importance, ou si le contenu est bon, peu importe la longueur du post, les gens liront jusqu'au bout?
Aucune importance. Harry Potter fait 7 tomes et pourtant c'est le livre le plus long au monde.
C'est vrai. J'aimerais bien qu'on aborde aussi la question de la création d'une marque personnelle. Toi, t'en as clairement créé une. On parle beaucoup de l'image de marque d'entreprise, si on parle des avocats, de l'image de marque d'un cabinet, mais on parle un peu moins souvent, en tout cas dans notre domaine, de la marque personnelle d'un avocat, d'une avocate ou d'un professionnel du droit. Est-ce que selon toi, les avocats auraient tout intérêt à créer, à développer une marque personnelle au-delà même de celle de leur propre cabinet ou de celui dans lequel ils exercent?
Il y a plein d'avocats qui sont connus pour tel ou tel type de dossier, qui ont leur notoriété. Donc finalement, dans le domaine des avocats, plus encore que dans les autres, avoir une marque personnelle, c'est ultra important en fait. Donc évidemment, il y a le nom des cabinets, mais on connaît aussi les avocats par leur nom et par leur, entre guillemets, réputation. C'est ce qu'on appelle la réputation, en fait,
oui.
La marque personnelle.
Et comment on s'y prend pour créer sa marque perso? Est-ce qu'il y a un peu des étapes clés?
Encore une fois, c'est un processus qui est un peu long, parce que ça demande, en fait, de comprendre qui on veut être. Mais je vais essayer de te faire un résumé rapide. La première question qu'il faut se poser, c'est... Alors, avant ça, je vais faire un petit disclaimer. Il n'y a pas besoin d'avoir de marque personnelle pour publier sur LinkedIn, il n'y a pas besoin d'avoir de marque personnelle pour publier sur YouTube, il n'y a pas besoin d'avoir de stratégie. La seule chose dont il y a besoin, c'est de l'action. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux commencer à publier, tu peux poster des posts, même si tu ne sais pas trop ce que tu fais. Le but, c'est de tester et d'itérer, et c'est comme ça aussi que tu vas trouver ta voie. Donc, s'il fallait choisir entre faire une stratégie de marque personnelle pendant une heure ou écrire un post pendant une heure, vaut mieux toujours écrire un post pendant une heure.
Ouais, se lancer directement dans l'action.
Je vois plein de gens qui me disent... Moi, je commence pas à poster ou je commence pas à créer du contenu parce que j'ai pas encore fait ma stratégie de marque personnelle. Bon, la stratégie de la marque personnelle, en vrai, elle vient aussi avec le temps et avec ce qui fonctionne. Donc ça, c'était le petit disclaimer. Ensuite, une fois que ça s'est dit, ta marque personnelle, c'est un mélange entre ta personnalité, tes centres d'intérêt et tes compétences. Moi, tu vois, par exemple, c'est le copywriting, mais aussi le féminisme et aussi l'enseignement. Moi, je suis un petit peu un mélange de tout ça. Donc, la première question à se poser, c'est de quoi tu veux parler? De quoi t'as envie de parler? Donc, tu vas avoir ton domaine d'expertise. Droit, je sais pas si c'est la RGPD, c'est la RGPD, quoi. Mais il faut que t'arrives aussi à trouver des sujets plus larges qui font que Laetitia, elle est pas que avocate en droit de la propriété intellectuelle, par exemple, mais elle est aussi engagée ultra écolo et elle porte vraiment cette voix sur ce sujet-là, ce qui va faire que les marques que tu vas attirer sont plutôt des marques, par exemple, responsables. Donc, oui. À toi de voir aussi quel sujet, donc il va y avoir des sujets très techniques, mais aussi de d'avoir des sujets qui sont plus attraits à toi, qui font que c'est toi et que c'est personne d'autre. Parce que c'est ça le sujet de la marque personnelle, c'est qu'est-ce que tu fais que tu es unique. Et donc, tu dois trouver dans ta personnalité des choses qui existent déjà et que tu vas mettre en lumière de manière à ce que tu deviennes mémorable, mais surtout différente, unique. Par exemple, Laetitia, ça peut être voilà l'avocate qui parle de droit des affaires et de féminisme, par exemple. Ou de droit des affaires et de course à pied, j'en sais rien. Mais voilà, les gens travaillent avec toi pour ton expertise, mais ils travaillent aussi avec un humain. Et c'est ça qui fait que les gens vont te retenir. C'est pas ton expertise, parce que 90%, ils connaissent rien en droit, en fait. C'est, par contre, qu'est-ce qui, de toi, résonne assez en eux pour qu'ils se souviennent de toi.
C'est à la fois, effectivement, parler de son expertise, etc., mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi montrer finalement un peu qui on est et ses engagements, etc. Alors, en fonction de ce que tu fais, de tes convictions, tes engagements, etc., parfois ça peut être assez proche, parfois le lien est pas forcément toujours évident à faire entre les deux. Donc, en fait, en gros, tu peux communiquer de façon un peu séparée sur ces deux aspects-là. T'es pas obligé de mélanger les deux.
Bien sûr, au contraire, c'est ce qui va faire de toi quelqu'un d'unique, en fait. Et tu verras que les clients vont même presque plus rebondir parfois sur... En fait, c'est un peu comme, tu sais, quand tu fais... même quand t'es en rendez-vous client, tu parles pas que de dossier, en fait. Tu apprends à les connaître et c'est ce qui fait qu'après, ils ont confiance en toi, etc., en fait. Donc, c'est ça aussi qui est important. C'est la relation que tu vas créer avec eux en dehors de ton expertise qui fait de toi un humain et qui fait que, en fait, ils vont te connaître et t'apprécier aussi. Et du coup, revenir.
Et une autre question qui est souvent abordée aussi, c'est jusqu'où, finalement, on montre de soi, jusqu'où aller, tu vois, pour... Est-ce qu'il y a une ligne un peu à franchir? Après, j'imagine que c'est aussi très personnel, ça. Mais comment rester toujours pro, même si tu parles aussi de toi?
La seule limite, c'est celle que tu te fixes. Tu vois, moi, par exemple, je parle de moi, je parle de ma vie, je parle de mon enfant, je parle de ma grossesse, parce que je trouve que c'est des sujets que j'ai envie de mettre sur la table, parce qu'on n'en parle pas assez, etc. Donc, pour plein de raisons. Et voilà, et moi, ça me pose pas de problème de mettre ça sur la table. Il y a des gens qui sont beaucoup plus pudiques et qui en ont pas envie. En fait, faut juste pas que t'aies l'air d'un robot, quoi.
Oui.
Si tu te comportes comme un robot, on te traitera comme un robot. Si tu te comportes comme un livre de droit, si tu te comportes comme
c'est chiant, ouais.
C'est sûr que, en fait, les gens, ils ont pas envie, en fait. Par contre, faut peut-être plutôt ressembler à un livre d'Harry Potter avec des péripéties, de l'adversité, etc. Voilà, le but, c'est aussi d'y mettre de toi. Et c'est toi qui fixes les limites. Moi, je pense qu'il n'y en a aucune. Enfin, tu vois, moi, j'ai parlé de fausses couches sur LinkedIn. Et aujourd'hui, ben, alors, mes clients sont majoritairement des clientes, majoritairement des femmes. Mais tu vois, c'est quelque chose qui fait que les gens se rappellent de moi, en fait. Parce que, ben, en fait, une fausse couche, il y a une femme sur quatre qui vit une fausse couche dans sa vie. Pareil, l'avortement, il y a une femme sur trois. Bon, ben voilà, en fait, c'est des sujets, si t'es prêt à les mettre sur la table, les gens vont se dire, ah bah ouais, en fait, Nina, elle est comme moi, elle comprend ce que je vis, et tu vas créer un lien émotionnel aussi avec ces personnes.
Oui, mais c'est ça aussi qui est important, effectivement, c'est de créer ce lien émotionnel, de faire naître aussi des émotions chez les personnes qui te lisent. C'est ça aussi qui permet à la fois de fidéliser, entre guillemets, ton audience.
Par exemple, si tu vises les salariés, bah peut-être que si tu parles de burn-out, bah en fait, ça va aussi leur parler, tu vois, par exemple. Enfin, si toi, t'as vécu un burn-out, par exemple, je dis n'importe quoi. Mais tu vois, ça va aussi leur parler. Donc, tu peux aussi trouver des thématiques qui sont connexes et qui pourraient parler à ta cible.
Je vais te citer un exemple. Il y a beaucoup de professionnels du droit, notamment d'avocats, qui publient sur LinkedIn sur des réformes de façon variée, mais sans forcément raconter une histoire autour de ça ou le présenter autrement que un lien d'article où il y a eu telle nouvelle réforme, etc. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour rendre le... Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « moi, j'aimerais faire les choses différemment », mais en fait, je n'arrive pas trop à savoir comment faire parce que c'est un sujet sérieux et en même temps, j'ai envie que mes clients ou mes prospects soient au courant de ce truc-là. Et il y a des éléments que je peux pas changer, qui sont des éléments de langage ou... Enfin bref, ça, c'est encore un peu discutable, mais j'ai envie de transmettre cette information. Mais du coup, je sais pas trop comment m'y prendre pour que finalement ce soit plus attractif et plus intéressant au regard de ma cible, de la façon dont je rédige la chose.
Demande-toi qu'est-ce qu'ils en ont à faire, en fait. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire, tes clients, quoi? Parce que, en fait, tu sors un article de loi, ok, mais moi, ça me change quoi, en fait? En quoi ça m'intéresse? En quoi ça me change la vie?
Donc, c'est repartir à chaque fois toujours la même chose de, finalement, à quel problème ou à quelle question tu vas répondre au travers du contenu que tu vas produire.
On va dire tel projet de loi est sorti, tu vois, à partir d'aujourd'hui, tu peux faire telle action sans que il se passe ça. Ou t'auras plus le droit de...
Oui, c'est ça. Montrer finalement les conséquences directes que ça peut avoir par rapport aux situations dans lesquelles ta cible de clientèle peut se trouver. Est-ce que tu aurais rapidement quelques conseils pour... donc il y a quasiment tous les avocats maintenant qui ont des sites internet. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur finalement comment créer un site qui soit attractif. Est-ce que tu as quelques conseils sur comment rédiger une page de vente qui convertisse? Je me doute bien qu'il faudrait là encore pas mal de temps pour en parler, mais si tu as déjà quelques conseils...
Claire. Alors, une page de vente qui convertisse. La première chose, c'est qu'une page de vente, c'est un seul objectif. Moi, si tu vas sur mon site internet, tu vois que sur chaque page, il y a un seul appel à l'action. Appel à l'action, c'est achète, par exemple, ou abonne-toi, ou regarde une démo, on s'en fout. Mais il en faut un seul, parce que sinon, tu vas disperser l'attention de ton lecteur, et toi, tu veux qu'il convertisse. Donc, la conversion, c'est vraiment sur un seul objectif. Ensuite, il faut que tu mesures. Il faut que tu saches que sur 100 personnes, il y en a combien qui ont cliqué sur le bouton, sur combien qui en ont cliqué, il y en a combien qui ont acheté. Ce qu'on appelle un peu un entonnoir, c'est à toi de voir parce que c'est cette métrique que tu dois améliorer. Et troisième conseil que je donnerais, c'est de travailler ces titres. Les titres, c'est la première chose que tu vois sur la page, ça va être un peu la promesse de la page. Et ça, il faut vraiment le travailler. Il faut que ça parle à ta cible et que ça résolve au moins un problème de ta cible.
Et est-ce qu'il faut mettre beaucoup de fois les mêmes boutons? Notamment ouais, acheter.
Plusieurs fois le même bouton. Les gens, en fait, ils scrollent, donc oui, tu mets plusieurs fois le même bouton.
Ok. Sur la façon de créer tes titres, est-ce que dans tes ressources, il y a aussi des articles là-dessus ou pas?
Ouais, tout ce que je dis là, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles sur mon site internet ninarven.com, il y a 47 ressources gratuites. Et sinon, il y a mon podcast qui s'appelle Transformer les mots en euros, et c'est des épisodes de 5 minutes où à chaque fois il y a des petites astuces qui sont hyper actionnables et que tu peux réutiliser facilement. Là, je te donne les grandes lignes, tu vois.
Mais c'est vrai.
Que pour les personnes qui ont envie vraiment de mettre en application, ça sera plus simple d'avoir le contenu sous les yeux ou de pouvoir le réécouter. Et un autre truc que j'ai pas dit aussi, c'est qu'une page de vente, ça s'écrit pour une seule personne, un seul type de personne. Par exemple, si je dois convaincre quelqu'un de passer de la voiture au vélo, si je vais convaincre mon mec qui est plutôt écolo, je lui dirais que ça va diminuer son empreinte carbone à l'année. Si je devais convaincre ma mère qui habite à Paris depuis 40 ans et qui a vu les embouteillages à Paris, je lui dirais que ça va lui faire gagner du temps et qu'elle va rejoindre son travail en 10 minutes. Et si je devais me convaincre moi, je me dirais que ça me permet de faire du sport sans pour autant bloquer trop de temps dans la journée. Donc là, tu vois que en fait, t'as trois ce qu'on appelle persona, et en fonction de ces personas, tu vas leur promettre des choses différentes.
Ouais.
Et en promettant des choses différentes, en fait, tu vas être au plus près de ce dont elles ont besoin, donc tu vas plus les convaincre. Si tu parles à ma mère d'écologie, bah, ça va pas forcément lui parler. Si tu parles à Thibaut, mon mec, de perdre du poids en faisant du vélo, il s'en fout. Donc voilà, c'est aussi ça, en fait, une bonne page de vente. C'est une page de vente qui met en face de son lecteur les bons arguments. Et donc, qui connaît bien son lecteur.
Oui, et donc ça veut dire aussi ne pas vouloir adresser trop de cibles différentes.
Exactement. Si t'essayes de vendre à tout le monde, si t'essayes de plaire à tout le monde, en fait, tu plairas à personne.
Peut-être un dernier point. Tu parlais de newsletter tout à l'heure. Est-ce que pour toi, c'est un bon outil pour convertir, pour vendre?
Ouais, c'est trop bien les newsletters, parce qu'en fait, c'est un peu comme le pote qui t'envoie un texto, quoi. Je veux dire, si t'arrives dans la messagerie de la personne, t'es vraiment dans son intimité, dans son téléphone. Tu vois, y a ton nom qui apparaît, quoi. Alors que, bah, sur LinkedIn, t'es une personne parmi tant d'autres. Alors, je dis LinkedIn, c'est Instagram, c'est pareil. Hein.
Oui, oui.
T'es une personne parmi les autres. Alors que ton email, alors la personne, elle sait que ton email l'envoie à plusieurs personnes. Hein. Mais par contre, tu vois, t'es quand même plus... LinkedIn, c'est un peu la soirée où tu croises plein de gens. Et la boîte mail, c'est un peu le pote de qui t'as le numéro de téléphone.
Donc, c'est assez complémentaire, selon toi, avec justement une communication sur LinkedIn ou d'autres réseaux. Et est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre, justement, si on décide de lancer une newsletter? Est-ce que tu as des éléments en tête? Quels seraient un peu tes trois conseils phares et trois erreurs à ne pas commettre?
Bah, le premier, c'est de parler comme un robot. C'est-à-dire que les newsletters, genre contact, @sephora.fr, c'est insupportable. C'est impersonnel et donc, en fait, on a l'impression vraiment que c'est un robot qui l'a écrit. Deuxièmement, ce serait de pas vendre dans la newsletter. C'est-à-dire que si t'envoies des emails toutes les semaines en disant que tu fais moins 30% sur tes produits, c'est insupportable aussi. Les gens, ils vont arrêter de te lire. Donc, vraiment apporter du contenu et vraiment t'apporter de la valeur avant de vendre. Et, troisièmement, ne pas oublier de faire de l'acquisition. C'est-à-dire qu'en fait, ça sert à rien d'avoir une newsletter, d'écrire 4 heures par semaine une newsletter, si en fait, t'as 10 inscrits, quoi. Donc, la newsletter, ça demande de faire de l'acquisition et de la remplir. Et ça, c'est un travail qui est presque aussi important, voire plus important que la newsletter en même temps.
Oui, parce que sinon, tu t'épuises à créer finalement du contenu, mais qui n'a pas vraiment d'impact. Exactement. Et qui sert pas ton objectif. Ok, et ben merci beaucoup. Pour finir, quel conseil tu aimerais donner aux professionnels du droit qui nous écoutent?
Tu vois, moi, j'accompagne des personnes qui font du droit, des avocats, mais aussi des experts comptables. Et c'est un peu pareil. Vous êtes un peu pareil, les deux, là. C'est qu'en fait, comme vous êtes très experts... Non, mais c'est vrai. Comme vous êtes très experts, vous êtes un peu là, genre, ouais, mais on peut pas parler de ça. Mais en fait, si je fais ça, c'est bizarre. Enfin, c'est très codifié, en fait. C'est très...
C'est vrai.
Je sais pas, c'est très institutionnel, quoi. Et ce qui fait qu'en fait, vous êtes très distant de vos clients. Et pas très accessible, quoi. Alors que, ben, en fait, rendre les choses accessibles, c'est un des meilleurs moyens pour avoir encore plus de clients, quoi. Mais quand on parle d'avocat, quand on parle d'expert comptable, on se dit, oh là là, c'est compliqué. Enfin, c'est pas très accessible, quoi. Et pareil, la manière dont... Alors, je parle de ma cliente, là, qui est expert comptable, j'arrête pas de lui dire, mais arrête de parler comme un robot, arrête de parler comme si t'écrivais un texte de loi, quoi. Et ben, pareil pour les avocats. Essayez de parler comme des humains. Ce sera déjà pas mal, en fait.
Non, mais c'est vrai, c'est un peu une déformation professionnelle, ouais.
Oui, c'est normal, mais je pense que la culture des avocats, et pareil un peu pour les experts comptables, est toxique au marketing. C'est-à-dire qu'en fait, bon, le copywriting, c'est du marketing, en fait, le fait de se faire connaître, etc. Et en fait, je pense que la culture, elle est toxique, parce que la culture des avocats et des experts comptables, c'est genre, je vais être tellement excellent qu'en fait, tout le monde me connaîtra et j'aurai pas besoin de me faire connaître. Et du coup, le marketing, c'est un peu mal vu, en fait, aussi, parfois.
Oui,
c'est vrai. Alors que ça va être un super levier d'acquisition, quoi, parce que tu peux être un super avocat, si t'as pas de clients, ça sert à rien, quoi.
Oui, mais ça, heureusement, ça évolue, mais c'est clair que il y a toujours un peu ce côté vendeur de tapis, si on parle
oui,
de
ouais,
façon...
Oui, j'ai peur de passer pour un vendeur de tapis.
Ouais. Après, je pense qu'il y a vraiment de plus en plus de professionnels qui se rendent compte de l'importance que ça a et des bénéfices que ça peut avoir pour eux. Et après, et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais t'interviewer, c'est parce que je pense qu'il y en a plein qui ont conscience de ça, mais qui se sentent un peu bloqués et qui savent pas trop comment s'y prendre. Et du coup, bah, j'espère que ça leur permettra de se lancer ou d'améliorer ce qu'ils font déjà et d'avoir des tips qui leur permettent de se sentir un peu plus serein par rapport au fait de se lancer là-dedans. Et
ouais, je comprends vraiment, c'est intéressant ce que tu dis. Mais vraiment, c'est cette idée de, voilà, de parler aux gens comme à des proches, en fait. Ou des moins proches, mais en tout cas, comme on pourrait le faire dans une soirée avec des amis, quoi. Dans un dîner avec des amis.
Ouais, mais c'est vrai que c'est pas simple parce que, donc, tu vois, moi, j'ai exercé pendant 6 ans et donc, ben, j'avais appris à rédiger d'une certaine façon. Enfin, la communication, le marketing, enfin, franchement, j'y connaissais rien ou quasi rien. Et apprendre à désapprendre, en fait, c'est pas du tout simple. D'apprendre à, justement, avoir un ton plus personnel, de pas être que dans les faits, mais de faire naître une émotion. Enfin, c'est, je trouve que c'est vraiment un travail de chaque jour et de lutte aussi contre la façon dont on t'a appris à faire et ce que tu vois aussi dans ton, enfin, dans ton écosystème, dans ton environnement, les retours que tu peux avoir. Enfin, ça peut un peu, ça dommage d'ailleurs, un peu brimer, tu vois, parce que je pense qu'au fond, tout le monde a cette capacité de, après certains plus que d'autres, mais finalement de parler, enfin c'est ce qu'on fait chaque jour, de parler de façon proche avec les gens, enfin c'est plutôt ce qu'on est, et après c'est cette espèce de fracture qu'il y a entre le monde personnel, le monde professionnel, et comment tu trouves cet équilibre finalement entre les deux. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, enfin, je comprends que c'est, ce sera pas simple, mais en tout cas c'est pas impossible, quoi. C'est ça le message que je voulais transmettre. Bon, ben, en tout cas, un grand merci, Nina, pour tous ces conseils. Dans un temps record, tu nous as livré plein de super conseils. Donc, merci beaucoup. Je mettrai aussi les liens vers à la fois tes ressources, ton site, puis bien sûr tes formations aussi, ta newsletter, enfin bref, tout ce qu'il faut pour que...
Ouais, il y a tout sur mon site.
Ok. Eh ben, un grand merci et puis à très bientôt.
Bah, merci à toi Laetitia, merci pour l'invitation, c'était un plaisir de parler à des avocats, à toi, et de comprendre un peu les problématiques sur le secteur. Je trouve que c'est particulier, c'est différent, mais je trouve que ça vaut le coup en fait, en plus de savoir-faire, de faire savoir. En fait.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note, de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions, ou si vous voulez donner votre avis, ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire sur les pages du Vent sous la Robe sur les réseaux, donc il y a une page sur Instagram, une page sur Twitter, une page sur LinkedIn, une page sur Facebook, et sinon sur le site internet, sur la page dédiée à chaque épisode, vous avez la possibilité de laisser des commentaires. C'est vraiment fait pour ça, ça peut être très intéressant de débattre sur ces sujets, donc n'hésitez pas. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt !